Message radio. Donc, bonsoir. Ce soir, un Brasero super spécial en public et avec deux plateaux. Bonsoir tout le monde. Faites du bruit. Et ce soir, je vous explique un peu le déroulé. On a deux plateaux. D'abord, on a invité Clément qui est venu nous parler d'un bouquin qu'il a commis qui s'appelle Radio It Yourself, petit manuel d'autonomie radiophonique. Donc on va discuter un peu de ça. Et ensuite, on aura un deuxième plateau où on a invité plusieurs personnes de l'émission Voyelle parce qu'il nous semblait que ça faisait sens, après ce petit manuel d'autonomie radiophonique, d'inviter les personnes qui avaient fait cette émission qui a duré très longtemps et qui a été un peu un lieu de radio DIY et d'utiliser la radio comme outil de lutte. Voilà. Donc, on espère que vous êtes bien installés.
Et ça va être super, quoi.
Ça va être formidable.
Ça a été difficile d'arriver jusque-là, il faut le dire.
Ouais, voilà. Ça a été compliqué. Mais
on a une heure de retard. C'est ça qui est bien.
C'est pas tant, finalement.
C'est pas tant, au final.
Pas tant. Pour une émission dans les conditions du direct, c'est pas si mal. Bonjour Clément.
Salut.
Merci d'être venu.
Bah, merci de l'invite, trop bien.
Et écoute, première question. Est-ce que tu peux d'abord nous parler vite fait du bouquin ?
Ouais, grave. Ben voilà, tu l'as dit, Radio It Yourself, c'est édité aux éditions Tain Party, qui est une maison d'édition associative à Lyon. Voilà, ça s'appelle Petit manuel d'autonomie radiophonique, Petit manuel technique d'autonomie radiophonique. Et bah, c'est un bouquin qui essaye de partir de presque rien, en tout cas de presque pas grand-chose de connaissances, pour essayer de gagner en autonomie, de réussir à faire de la radio sans trop galérer. L'idée, c'est d'essayer de regrouper plein de connaissances, de choses qui viennent de droite, de gauche, et pour faire de la radio un peu de A à Z, c'est-à-dire... techniquement, quoi, brancher des micros, faire marcher des ordinateurs, des tables de mixage un peu, des émetteurs, des antennes, et essayer de comprendre un peu tout ça. Et de. Ouais, voilà, essayer de comprendre pour avoir l'air moins con devant des machines. Et voilà. Voilà, déjà dans un premier temps, c'est une première présentation courte, quoi.
Et est-ce que tu pourrais te dire pourquoi tu as fait ça ?
Ouais, ben en fait moi-même quand j'ai essayé de comprendre la radio, ben, c'était quand je suis arrivé à Canal Sud. J'ai essayé de comprendre comment cette radio-là elle marchait et il y a personne qui a su me dire. J'ai demandé à plein de gens et en fait même collectivement en fait il y avait personne dans la team quoi qui pouvait. On n'arrivait pas à refaire tout le lien quoi. Donc moi j'ai suivi les fils et je connaissais pas grand-chose. Donc j'ai tiré les fils et je suis arrivé à des appareils que je connaissais pas. J'ai tapé le nom de l'appareil sur Internet et j'ai vu à quoi ça servait. Enfin, j'ai essayé de comprendre à quoi ça servait. Après j'ai fait le fil d'après, etc., etc. Et donc de fil en aiguille, j'ai essayé de documenter un peu d'abord pour moi et essayer de comprendre comment ça marchait. Et voilà. Et en fait, il y a plusieurs problèmes pour essayer de comprendre tout ce qui se passe. C'est que déjà il y a des trucs qui c'est inexistant, il n'y a pas trop de... Moi j'ai tapé sur internet comment ça marche un émetteur radio, j'ai jamais trouvé vraiment de réponse quoi, ou bien alors des trucs trop compliqués, ou en anglais, ou en espagnol, ou dans d'autres langues. Et aussi, ce que j'ai aussi pas mal observé, c'est que c'était toujours une affaire de spécialiste quoi. C'était toujours des gens qui t'expliquaient des trucs mais sans t'expliquer le reste, ou qui t'expliquait le reste, mais sans tout t'expliquer les trucs, et que c'était hyper compliqué, en fait, d'avoir un truc global, quelque chose où tu t'arrives à comprendre, même si t'as rien à la base. Et en plus, comme beaucoup de spécialistes, c'était toujours aussi fait par les mêmes personnes, les personnes dominantes, quoi, des mecs blancs valides 6-7, qui s'adressaient à des mecs blancs valides 6-7, et du coup, ça aussi, c'était, je trouvais que c'était problématique, quoi. Donc l'idée, c'était d'essayer de faire un bouquin. À la base, je m'étais dit, je vais faire une chaîne YouTube, parce que moi, c'est comme ça que j'apprends le mieux les choses, c'est en regardant des tutos YouTube. Et après, je me suis dit, déjà que c'était chiant de faire du montage vidéo, que c'était contraignant et tout ça. Et du coup, je suis plutôt parti sur l'idée d'un bouquin, où au moins, j'ai pas mis mon nom sur ce bouquin-là, il est pas signé, quoi. Du coup... L'idée, c'est qu'aussi, on n'a pas une représentation de l'auteur ou de l'autrice, du coup, mais en tout cas que voilà que ça disparaisse quoi. En fait que ce soit un manuel technique, c'était ça l'idée. Comme les manuels techniques ne sont pas signés, je trouvais ça bien en fait de faire ça comme ça. Mais pour le coup, j'avais pas envie que ce soit un manuel technique qui soit hyper compliqué à lire. J'avais pas envie que ce soit un truc où il faille connaître d'abord, avoir des bases techniques pour comprendre ce qui est expliqué dedans. Et j'avais aussi envie qu'il soit politique dans le sens où j'avais pas envie que ce soit utilisé. Après, ça peut, mais l'idée, c'était pas que ce soit utilisé par une équipe de racistes qui veulent faire une radio raciste ou quelque chose comme ça. Du coup, quand même, les bases sont vraiment. C'est des bases voilà, anticapitalistes, antiracistes. Voilà. Donc ça, c'est un peu là-dessus, quoi. Et du coup, ça parle aussi forcément des pratiques radio qu'on a. Et ça essaye de poser aussi comment on transmet les compétences techniques, en fait. Et ça, c'est des gros, gros enjeux de pouvoir dans nos radios. Et justement, enfin, voilà, peut-être on va revenir ou je ne sais pas par quoi on a envie de commencer...
Peut-être juste pour rester un peu sur pourquoi tu fais ce bouquin, pourquoi tu le fais maintenant. À un moment, on entend quand même pas mal parler de que la radio, la FM, finalement, ça va disparaître. On va avoir la radio numérique, etc. Et du coup, ton bouquin, il arrive maintenant.
Ouais.
T'as pensé à ça ? Qu'est-ce que tu fais de ça, quoi ?
Moi, je l'ai écrit au moment où j'ai eu l'idée de l'écrire. C'est vrai que ça s'inscrit, comme tu dis, dans un truc où il y a... Moi, quand je parle de radio, par exemple, à des gens qui ne sont pas dans le milieu radio, en fait, ils me parlent de podcasts qu'ils ont écoutés, ils écoutent la radio sur leur télo, il y a la radio numérique qui va peut-être remplacer la FM. C'est vrai qu'il y a une sorte de moment un peu bizarre là, dans la FM. Il n'y a plus beaucoup grand monde qui écoute la FM. Quand tu fais des ateliers avec des gamins qui ont 15 ans, tu leur demandes « Vous écoutez de la radio ?»« Oui, oui. Ah, vous écoutez quoi comme radio ?»« J'écoute Radio Afrobeat sur Spotify, tu vois. » Et en fait, c'est une playlist, tu vois. Et donc, du coup, ça perd vraiment beaucoup de sens. En tout cas, il y a un gros virage, j'ai l'impression, dans la radio. Bon, moi, je n'ai pas envie d'opposer les pratiques. Je trouve que, en fait, écouter un flux audio, en fait, c'est écouter de la radio. Pour moi, le streaming ou une web radio, ça a autant de sens, si ce n'est plus qu'une radio FM. J'avais envie d'inscrire un peu aussi différentes pratiques dans le livre. Donc, ça parle aussi de streaming, parce qu'en fait, c'est important et qu'on aime bien faire du streaming. Et que ce soir, par exemple, on stream pour les copains, copines qui nous écoutent de loin en direct, quoi. Donc, ça, c'est cool. D'ailleurs, salut à vous, si vous nous écoutez. Moi, j'ai pas envie de dire la FM, c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai juste envie que si on a envie de faire de la FM, qu'on ait les moyens de le faire. Et donc, on ouvre le bouquin à la page FM. Et si on a envie de faire du streaming, c'est bien d'avoir les moyens de le faire aussi. On ouvre le bouquin à la page streaming. Donc, c'est aussi un bouquin qui peut se feuilleter, quoi. Faut pas se le taper de A à Z. C'est beaucoup trop chiant. C'est un manuel technique, quoi. Voilà, moi je pense que les pratiques elles sont complémentaires. En vrai, par exemple, le podcast, j'ai l'impression que le fait qu'il y ait plein de gens qui écoutent plein de podcasts et qu'il y ait une grosse, grosse production, ça nous pousse aussi à faire d'autres trucs ou même à continuer à faire de la radio FM pour pas qu'elle disparaisse. Pour moi, c'est un peu la même chose quand même. C'est pas grave que le moyen d'écoute, c'est pas une finalité, c'est juste un moyen d'écoute. S'il disparaissait, on en utiliserait un autre. C'est pas grave. Après, c'est stylé, c'est bien. C'est comme les cassettes ou les vinyles, c'est stylé, c'est bien, mais pas plus. C'est pas parce que le vinyle il disparaît que la musique elle va disparaître, heureusement. Mais pareil pour la FM, quoi. Donc,
voilà. Et le manuel, il permet de toute façon plusieurs pratiques.
Ouais.
Il y a quoi, du coup, dans ce manuel, si tu fais un peu le menu ?
Ouais, le menu du manuel, c'est d'abord, il y a une première partie où c'est un peu le studio de radio et tout, brancher des micros, enfin, c'est comment ça marche un micro, comment ça marche une table de mix, c'est comment choisir du matériel pour créer une radio, etc. Donc, c'est tout ce qui est côté son, c'est quoi les tips un peu pour avoir un studio qui sonne pas trop dégueulasse, des trucs, enfin voilà, plein de trucs comme ça, comment fabriquer une bonnette soi-même, une petite mousse là pour mettre sur le micro. Plein de trucs comme ça, donc tout ce qui est autour du son, vraiment, quoi. Après, il y a une partie plus informatique, donc là où dans lequel il y a des trucs sur le streaming, des trucs sur les ordis, un peu, les logiciels un peu de playlist, les trucs comme ça dans les radios. Ensuite, il y a une grosse partie quand même qui est sur la FM, parce que bah, peut-être on aura l'occasion d'en reparler, mais pour moi, la FM, ça permet quand même des choses que ne permettent pas d'autres moyens de diffusion. Ce n'est pas juste stylé, comme je viens de le dire, mais ça, c'est aussi populaire sous plein d'aspects, quoi, on va dire. Donc, il y a une grosse partie sur la FM aussi, bon, parce que c'est un moyen populaire de diffuser du son, mais et je me perds, mais aussi parce que une autre raison que j'ai perdu, c'est pas grave. parce que ouais, parce que la documentation en fait, elle est très faible en fait. Pour construire une antenne, c'est compliqué de trouver de la doc et tout ça. Alors que pour le son, pour le coup, on arrive à trouver quand même des blogs de, je sais pas quoi, de gens qui font du son, des home studios, des trucs comme ça et tout ça. On arrive à trouver de la doc. Alors que pour tout ce qui est FM, c'est vraiment compliqué. Moi, je suis allé gratter des infos. À des vieux géotrouve-tout qui sont au fin fond de leur cave avec leurs émetteurs à bricoler des trucs et qui te parlent en chinois dès que tu leur poses une question. Je suis allé leur gratter des infos, bah, moi, juste pour apprendre, quoi. Donc, du coup, voilà. Donc, la FM, bah, voilà, ça fait une grosse partie. Il y a une partie dans la FM, il y a une partie vraiment de compréhension de c'est quoi les ondes, de comment, voilà, comment ça se transmet, parce que c'est un peu des trucs un peu magiques qu'on a du mal à comprendre, en fait, quoi. Donc, j'avais envie que ça parte un peu de zéro pour se dire, si j'ai envie de comprendre... Bah, y a une partie théorique où je peux me la coltiner et voilà, je comprendrai. Mais si tu veux pas la partie théorique, bah, tu peux passer aussi directement à la pratique, donc ça va. Et après, à la fin, il y a une petite partie sur la radio numérique, le DAB+, là. Parce que, pourquoi j'ai fait une partie comme ça ? Bah, parce qu'au moment où j'ai écrit ce livre, mais ça a un peu évolué depuis, donc je l'ai écrit il y a 2 ans, au moment où j'ai écrit ce livre, j'avais l'impression que l'objectif un peu de l'administration, c'était à terme d'éteindre la FM et que si on n'était pas capable de s'autonomiser sur le futur moyen de diffusion, bah, on allait perdre notre autonomie en fait. Du coup, je me suis dit, bah, il faut qu'il y ait une partie sur le DAB+ là-dedans. Comment faire un émetteur DIY en DAB+, comment se débrouiller quand on a... pas plein de thunes et pas plein de compétences pour faire un émetteur de ce type-là, quoi. Et pour moi, là, c'était important à cette époque-là. Aujourd'hui, si je réécrirais le livre, je pense que je la mettrais quand même, mais j'en serais un peu moins convaincu, ça me poserait un peu plus de questions et tout ça. Mais voilà. Ouais. Je trouve que, en tout cas, créer de la documentation là-dessus au moment où le DAB+, il est en train de s'installer, c'est comme si j'avais sorti ce bouquin-là sur la FM en 85, tu vois. C'est un truc un peu genre, ok, c'est en train d'apparaître, il faut qu'on ait de la documentation. Bah, malheureusement, il n'y a pas eu trop de documentation sur la FM, elle a été gardée un peu par des mecs spécialistes. Et du coup, voilà. Mais du coup, pour le DAB+, bah, au moins, il y a un petit peu, quoi. C'est une introduction, c'est pas vraiment. Voilà. En vrai, chaque partie de ce bouquin pourrait faire l'objet d'un bouquin. Elle toute seule, quoi. Du coup, j'ai essayé aussi de faire le plus exhaustif possible sans que ce soit imbuvable, voilà.
Et en termes de radio FM, tu te situes dans le milieu des radios libres, radios associatives. T'en parles un peu, peut-être. Tu peux nous dire quelques mots là-dessus, sur l'état de ces radios libres.
Ouais, ouais, après, c'est mon avis, hein. Je sais pas si... Voilà, moi, pour moi, les radios associatives, perso, ça me fait un peu chier. Les fonctionnements associatifs, de manière générale, ça me fait un peu chier, j'avoue. Le problème, c'est que en fait, quand tu prends n'importe quel type de média en France, les journaux, faire un CD, faire un film, tous les médias, en fait, sauf la radio, tous les médias, tu peux les faire sans existence associative. Moi, demain, si je veux faire un scud, je fais un scud et je n'ai pas besoin d'avoir une association pour le faire. Si je veux faire un livre, je peux le faire aussi comme ça. Mais par contre, la radio, tu es obligé d'avoir une structure juridique que tu déclares en préfecture. Et en fait, ça, c'est un premier problème, quoi. Et ensuite, ça génère un fonctionnement associatif qui marche très, très rarement, en fait. Très, très rarement. Et qu'en fait, en tant que radio associative, en plus, on peut obtenir des fortes subventions, plusieurs dizaines de milliers d'euros par an assez facilement, ce qui peut ne pas paraître suffisant parfois, mais qui en fait objectivement est assez important, quoi, énorme. Et du coup, ça crée de la spécialisation, en fait. L'organisation juridique qui est forcément hiérarchique, parce que tu as déclaré au moins un bureau et des bénévoles et des animateurs qui ont un peu un rang comme ça, et du coup, tu as un peu des décideuristes d'un côté et des gens qui, je sais pas, qui utilisent juste la radio de l'autre. bah en fait déjà ça crée un peu de la merde, c'est tu peux pas, enfin voilà. Et donc moi les radios associatives, j'ai un peu du mal. Malgré tout, bah, je pratique de la radio en radio associative parce que c'est ce qui est plus proche que de, enfin c'est ce qui est, existe et qui est le plus proche de ce que j'aime bien quand même. Mais bah voilà, après ce bouquin, il parle de technique, il parle pas trop de, enfin voilà, il peut s'appliquer pour une radio qui est pas déclarée, légale ou pas légale. Il y a des radios pas déclarées en Espagne qui sont légales ou je ne sais rien où, dans quel pays, je connais pas la législation de tous les pays, mais en fait il y a plein de pays qui ont pas du tout la même législation qu'en France, quoi, enfin même en Europe. Ça peut s'appliquer à des radios légales, des radios associatives, mais ça peut aussi s'appliquer à des radios privées. Moi, ce qui est marrant, j'aime bien, il y a une anecdote que j'aime bien, que j'avais rencontré un technicien de radio Totem en Occitanie, là, c'est une petite radio, enfin c'est une radio commerciale, régionale, et en discutant avec lui, il m'a dit, nous on est, ah vous êtes une associative, bah nous on est commercial, on a voulu garder notre indépendance. Je me suis arrêté, j'ai fait, mais qu'est-ce que tu racontes, vous faites de la pub et tout. Il me dit, ouais, mais en fait, au début, on était associatif. Et en fait, quand on a commencé à avoir plusieurs émetteurs avec des gens qui nous écoutaient, ben, y a la communauté de communes, il y a la mairie qui sont venus faire des émissions dans notre radio, qui ont commencé à prendre une place dans le bureau et tout. Et puis finalement, on s'est retrouvés avec le directeur de, je sais pas quoi, des médias, de la communauté de communes qui a commencé à inviter ses potes. Et en fait, on faisait la pub pour la communauté de communes, quoi. Et du coup, ça nous a saoulés. Du coup, on a viré ces gens-là, on est passé en catégorie B, c'est-à-dire en commercial, et maintenant, on dit ce qu'on veut. Ça m'a scotché, quoi. J'étais... C'est drôle, hein. Donc, en fait, voilà. Donc,
mais c'est vrai que quand on lit la convention, en fait, les missions qui sont attribuées aux radios libres et à qui l'État prête les ondes, c'est assez délirant, quoi. C'est vrai que c'est... si on ferait exactement ce qui a marqué... Tu fais de l'info locale et du service public délégué à l'État.
C'est vraiment ça.
C'est assez fou de lire ces trucs-là et les contrats avec le CSA.
Et moi, je le dis un peu brièvement dans le livre. Moi, je trouve que ça a tué vraiment les radios libres, en fait. Tu vois, genre, on s'est dit, c'est génial, on a le droit d'exister. Donc, on crée des associations et de toute façon, c'est léger. On va bien se débrouiller avec ça et puis on va faire ce qu'on voudra quand on aura le statut. Et puis finalement, on se rend compte 40 ans plus tard qu'on ne fait pas du tout ce qu'on veut, en fait. Dans les radios associatives, très souvent, on fait des trucs pour avoir de la thune, en fait, pour réussir à payer les gens qu'on a embauchés, parce qu'en fait, on s'est spécialisé, parce que, en fait, sinon, on ne sait pas comment, enfin, parce qu'il n'y a personne sinon qui veut faire les infos locales qui sont exigées par l'administration, parce que sinon, on ne sait pas comment faire fonctionner notre émetteur, parce que, voilà, il faut une personne spécialiste, etc. Donc, l'idée aussi d'écrire le bouquin, là, c'est de poser un peu des bases de connaissances qui peuvent être accessibles. Et comme ça, si on a envie de se ressaisir collectivement, en fait, d'une charge technique, bah, en fait, on le peut, quoi. Parce que c'est vraiment, pour le coup, quand tu as une personne qui est spécialiste dans une radio et qui sait comment tel logiciel marche, eh ben, elle se l'approprie et c'est rapport de pouvoir direct, quoi. C'est-à-dire que si la personne, elle n'a pas envie de te laisser gérer la playlist de son, par exemple, parce que le logiciel, il est trop compliqué pour être compris par quelqu'un d'autre que cette personne-là, bah en fait, c'est juste lui qui fait la playlist. C'est très, très triste.
Et du coup, le manuel, il peut permettre de se réapproprier aussi techniquement nos radios, quoi.
Ben, c'est ça. C'est l'idée, c'est ça. C'est ça. Moi, je sais que, en fait, je pourrais l'écrire. Je me suis pas mal basé sur... parce que j'ai fait un peu des formations. Des gens, ils m'ont demandé, ouais, est-ce que tu pourrais faire une formation sur un émetteur, un peu comme on a fait un peu tout à l'heure, là. Et donc moi, j'avais un peu des documents de formation que je filais et tout ça. Et donc j'ai commencé, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai repris tous ces documents-là pour commencer à faire ce bouquin-là. Donc l'idée après, ça peut pas être le seul truc, hein. Il faut qu'il y ait d'autres pratiques, quoi. Il faut que les pratiques, elles soient multiples, quoi. C'est pas juste un bouquin, il faut après... Il faut s'y coller. C'est dur, en vrai. C'est dur, hein. Moi, je le dis dans le bouquin. Même moi... quand j'ai essayé de comprendre et de brancher des antennes et tout, j'ai cramé des émetteurs et je me suis même un peu ruiné. Enfin, j'ai dépensé plein de thunes pour acheter des trucs, des câbles, des machins. Ah merde, c'est pas le bon câble. Bon, bah, je rachète un câble. Bon, je travaillais dans des radios associatives, c'est elles qui m'ont financé mon matos finalement. Mais l'idée, ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est dur. Tu fais des erreurs, tu comprends pas. T'essayes. Moi, il y a des fois, il y avait des copains qui étaient chauds pour faire des trucs avec moi. J'ai essayé et c'est clair que c'est... Et qu'en plus, j'avais quand même cette facilité-là d'être un mec et que quand j'allais voir des vieux, ils me prenaient pas... ils me prenaient pas pour une quiche quand j'allais les voir quoi. Et ça c'est clair que ça a été facilitant pour moi. Et j'avais d'autres potes mecs aussi, tu vois. Et en fait, c'est vraiment un truc qui se passe de mec en mec. Ça se voit direct quand tu vas voir des anciens qui ont bricolé ça toute leur vie. C'est difficile. Donc, ouais, j'ai pu faire toutes ces expérimentations-là. Si on a envie de faire ça, c'est clair que ça demande un peu d'abnégation, Ça demande vachement de temps, en fait. Ça demande vachement de temps. Et il y a des... Pareil, dans le bouquin, il y a des chapitres. Je le dis au début du chapitre. Je fais, bon, ce chapitre, il est dur. Tu vas le lire une fois. Tu vas avoir l'impression de l'avoir compris. Tu vas le relire dans un an. Si tu pratiques, tu fais des trucs, t'essayes. Et dans un an, tu relis le chapitre et tu le relis différemment. Moi, il y a des trucs comme ça que j'ai compris en 3 ou 4 fois. J'avais l'impression d'avoir compris et tout. Et puis, au moment de l'expliquer à quelqu'un d'autre, c'est là, mais attends, je m'embrouille, je sais plus. Et tu relis le truc qui t'avait fait l'apprendre quelques mois plus tôt. Et en fait, ça transforme ta compréhension. Et c'est dur, mais ouais, faut passer un peu par là, quoi. Ouais. Il faut pratiquer. Et puis après, faut s'enjailler à essayer de brancher des antennes à des moments où on fait un plateau. Allez, je ramène l'émetteur et puis on branche l'antenne et puis on voit ce que ça donne. Et puis c'est rigolo, quoi. Moi, je sais que j'ai pas mal expérimenté aussi sur les ZAD, quoi. Où t'es à peu près sûr qu'il va pas y avoir des flics qui vont débarquer pour te niquer ton matériel. Ça, c'est aussi intéressant. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ça a été une expérimentation de ouf. Moi, je me souviens, le jour de l'expulsion de Notre-Dame-des-Landes, quand on écoute en streaming, on peut savoir assez facilement combien de personnes écoutent. Même quand on est auditeur, on peut, quand on connaît un peu le truc, on peut savoir combien il y a d'auditeurs. Et moi, je me souviens, le jour de l'expulsion de la ZAD, il y avait plus de 1500 auditeurs en direct sur le stream de Radio Klaxon. Une radio comme Canal Sud, quand il y a des pics d'auditorat sur le stream, c'est 30 personnes, quoi. Et là, tu avais 1500 personnes. Ça veut dire que c'était le stream le plus écouté de France, probablement même devant des radios nationales. Et ça a été des zones d'expérimentation radiophonique aussi hyper importantes. Et voilà. Et en fait, pourquoi on n'arrive pas, avec nos radios associatives, à avoir des audiences comme ça, c'est parce que ça a vachement moins de sens que d'écouter Radio Klaxon le jour de l'expulsion de la ZAD. Tu as envie de savoir ce qui se passe, tu as envie d'être en direct, tu as envie d'écouter, il y a un projet politique, il y a des gens qui parlent, et du coup ça a vachement de sens. Et en fait, nos radios associatives, elles perdent beaucoup de sens, en fait. Et bon, voilà. Observation.
Et du coup, c'est comme si, du coup, il faut passer par ce... intégrer ce savoir technique pour pouvoir faire de la radio... de manière libre et politique, etc. Toi, c'est quoi que... Au fond, c'est quoi que t'aimes faire à la radio? C'est quoi que tu dis, il faut la pratiquer? C'est quoi qui te fait le plus kiffer?
Moi, ce qui me fait kiffer personnellement, c'est de mettre en place des infrastructures les plus simples possibles avec les moyens qu'on a pour que les gens ils puissent utiliser le média. C'est un peu comme quand tu kiffes, je sais pas, faire des planches de typographie, mais c'est pas toi qui écris, mais tu kiffes faire les planches de typo pour que ce soit imprimé. Moi, c'est ça qui me fait kiffer. Et c'était quoi le début de ta phrase? Parce que ça m'a fait...
Non, parce qu'il y a plein de moments où tu as dit en fait, c'est un peu lourd, mais en fait, il faut savoir, il faut s'y coller, etc. Et du coup, je me demandais si c'est vraiment ça qui, toi, te plaisait dans la radio ou si c'était autre chose, au final.
Après, ouais, je kiffe tout ce qui est technique, mais ce qui est technique, pas forcément des fils et des câbles. Moi, je sais pas, il y a d'autres trucs techniques qui m'ont fait triper. Par exemple, il y a des endroits juridiques qui me font triper. La technique juridique, parfois, ça peut me faire délirer. C'est des trucs obsessionnels, un petit peu, je fonctionne comme ça. Par contre, je voudrais rebondir sur ce que tu dis. On doit s'y coller. En fait, moi, je vois bien le truc. J'aime bien voir le truc en mode collectif. En fait, ouais, il y a une petite team qui doit s'y coller. C'est comme quand tu fais une soupe. Il y en a qui coupent des patates, l'autre les oignons, l'autre qui font la cuisson et les autres qui servent. En fait, voilà, il faut qu'on arrive à créer des petites équipes comme ça. Pour autant, il faut vraiment, comme pour la cuisine, il faut faire gaffe aussi à quels enjeux de pouvoir et de domination il y a aussi. Est-ce que les petites mains, ça va être toujours les mêmes personnes? Est-ce que les gens qui servent et qui reçoivent les félicitations, ça va être toujours les mêmes personnes, etc.? Et j'ai l'impression que c'est pareil, hein, même tout à l'heure, même aujourd'hui, je l'ai observé aussi, il y a eu des trucs pareils, quoi. Enfin, voilà, comme c'est partout, hein, voilà. Et du coup, il faut toujours être vigilant quand on sépare un peu les tâches comme ça. Mais j'ai l'impression que... Tu vois, par exemple, moi, aujourd'hui, j'étais sur mettre l'antenne là qu'il y a dehors et tout. Du coup, je ne me suis pas du tout occupé de, de, du contenu ou de je sais pas quoi, ou du stream ou j'en sais rien quoi. Et voilà, on ne sait pas, on peut pas tout faire en fait. C'est nos trucs. Même des petits plateaux comme ça, en fait, c'est déjà trop gros pour tout faire. Donc faut pas non plus. Faut pas non plus avoir, tu vois, une sorte de complexe de « moi, je sais pas parler dans le micro » ou « moi, je sais pas monter l'antenne ». En fait, on n'a pas envie de tout faire. Enfin, je sais pas, je crois, j'ai même l'impression que c'est même pas bien d'avoir envie de tout faire, toute façon. Donc, tant mieux, il y a des gens qui font ça. Après, l'idée, c'est d'essayer de déconstruire au max qui c'est qui fait quoi aussi, quoi.
Ouais, et puis de comprendre les enjeux, s'il y a des choix à faire, pouvoir les faire à plusieurs quand même.
Quoi. De ouf, et même rendre si... le truc le plus accessible possible aussi pour que tout le monde ait les enjeux. Ouais, c'est ça, ouais. Comme tu dis, ouais, c'est trop bien. Ouais.
Ouais. On a une liste de questions du coup qui a été faite. Okay. On se disait, est-ce que tu as parlé un peu de la ZAD, mais tu peux raconter une expérience de Radio Lead qui t'a marqué, mais vraiment quoi. Marqué quoi.
Au fur et à mesure. En plus, je vous ai entendu dire la question tout à l'heure et j'ai pas réfléchi entre temps. Bon, ouais, après, ça va revenir sur... Bon, je sais pas. En fait, moi, ce qui m'a presque le truc qui m'a le plus marqué, c'était dans une radio associative. Et c'était la lutte des prisonnières des Baumettes à l'hiver 2020-2021. C'était vraiment ouf. C'était donc dans l'émission Parloir Libre, donc qui est une émission qui n'est pas politique, qui n'a pas de but politique, où on ne parle pas de politique dedans, c'est juste une émission de messagerie pour les prisonniers et prisonnières. Donc c'est, ouais, je dédicace ma musique à Nanani, et c'est 2 heures d'émission, 2 fois par semaine sur Radio Galère, voilà. Et en fait, à l'automne, fin de l'automne 2020, je crois que je ne dis pas de bêtises sur la date, mais j'en suis pas certain, en tout cas, le pic, c'était vers décembre, et je crois que c'était en 2020, et il y a eu des fouilles... Ça a commencé avec des changements de fenêtres. Il y a des voisins des Baumettes qui se sont plaints que la prison faisait trop, enfin les prisonniers et prisonnières faisaient trop de bruit. Et du coup, l'administration a décidé de placer des fenêtres anti-bruit dans les cellules, ce qui consiste à avoir des fenêtres qui ne s'ouvrent pas vraiment. Et donc, du coup, là, ça a commencé un peu à monter en pression du côté des femmes, parce que c'est du côté des femmes que les fenêtres ont été posées. Et puis ensuite, Et à ce moment-là, Parloir Libre, il y avait beaucoup les femmes des Baumettes qui appelaient et elles se dédicassaient les morceaux les unes les autres. C'était trop bien. D'une cellule à l'autre, je dédicace pour telle cellule. C'était vraiment chou, quoi. Et ça a créé du soutien dans la tôle. Elles se sentaient, enfin voilà, ça a créé de la force et tout ça. Et il y a une des meufs, une jeune, qui a eu une fouille à nu particulièrement violente qu'elle décrivait comme un viol. Et du coup, ça a commencé à foutre le bordel. Et il y a des détenus qui ont commencé à prendre cher, qui se sont pris du mitard, etc. Et il y a d'autres détenus qui ont subi des fouilles similaires. Et du coup, là, c'est parti en cacahuète en quelques jours. Et en fait, ce qui a été vraiment hyper émouvant, c'était que les meufs, en fait, elles témoignaient à l'antenne en direct. Elles appelaient le standard. Elles témoignaient en direct de ce qui était en train de se passer. Parfois, elles posaient le téléphone pendant 5 minutes, on les entendait défoncer leurs cellules, foutre le bordel, etc. Parfois, elles foutaient le téléphone par la fenêtre et elles arrivaient à communiquer avec les meufs qui étaient au mitard en disant « qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?»« comment ça s'est passé ?» et tout. Ça a duré plusieurs semaines. Il y a eu 2 émissions vraiment où il y avait vraiment des témoignages tout du long, où il y avait quasiment plus de dédicaces. En tout cas, il y avait quelques musiques pour ponctuer, mais c'était 2 heures de témoignages et bon, c'était hyper fort. Bon, après, on a eu un coup de fil de l'administration pénitentiaire qui nous ont dit qu'on n'avait pas le droit de faire ça, de relayer les témoignages. On leur a répondu qu'on ne savait pas de quoi ils parlaient et puis voilà. Et ça c'était hyper fort. On a essayé de le documenter aussi un petit peu. Alors je sais pas trop, moi j'ai quitté la team, mais je crois qu'il y a eu de la documentation un peu écrite qui a été faite, et peut-être que ça va sortir aussi plus tard quand on arrivera à la mettre plus en forme. Mais ça c'était, c'est un de mes souvenirs les plus émouvants, franchement. Après, elles ont pris cher, elles ont été mutées, elles ont été transférées dans d'autres prisons et tout ça. D'autres ont été libérées parce qu'elles étaient en fin de peine. Ça s'est étouffé en quelques semaines, quoi. Mais ça a permis de porter une voix, franchement, comme moi, j'avais jamais entendu. C'était trop fort, c'était trop bien.
Ouais, voilà. C'est beau.
Ouais, c'était trop, trop beau, vraiment. Bon, après, c'était beau, mais c'était hardcore, quoi. C'était hyper dur. Ouais.
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émissions carcérales et qu'il y a ce truc que l'AFM permet aussi de passer entre les murs. Et ouais. C'est quand même un peu le seul...
grave.
Le seul média un peu autogéré qui permet ce truc-là. Quoi.
Ouais, et puis ce qui s'est passé aussi, c'est que derrière, ils ont installé des brouilleurs de téléphone. Du coup, les filles, elles ne pouvaient plus appeler de l'intérieur. Leur téléphone ne passait pas. Après, du coup, les gens de l'extérieur pouvaient appeler à la radio pour leur laisser des messages. Et elles l'entendaient parce que du coup, là, ils n'ont pas le droit de brouiller la radio à l'intérieur. Enfin, voilà. Mais du coup, les téléphones ne passaient plus. Du coup, elles ne pouvaient plus appeler de l'intérieur et s'appeler entre elles. Quoi. Mais c'était trop bien parce qu'en fait... Ces trucs-là, elles auraient pu le faire entre elles, puisqu'elles avaient des téléphones. Mmh. Elles auraient pu s'appeler les unes les autres et se dire qu'est-ce qui s'est passé et tout. Non, là, elles voulaient passer par la radio pour témoigner. Mmh. Et waouh, ouais. Mmh. Ça, ouais.
Et en termes de transmission, de savoir-faire plus technique, là, ouais. Tu parlais tout à l'heure, on a fait un atelier. Et bon, même malgré ça, il y avait quand même certains rôles duquel chacune, on n'a pas su s'extirper. Tu as un récit comme ça, une expérience de transmission, que ce soit avec ton bouquin ou avec un truc qui t'est marqué comme ça, de comment en fait on peut se faire passer des savoirs ou se réapproprier des savoirs
Je réfléchis en même temps. Bon, ouais, je sais pas. Moi, après, il y a. Ben là, ce qui me vient en tête plutôt, c'est les rencontres des radios libres qui ont lieu de temps en temps. On va pas dire quelle régularité, mais voilà, les rencontres de radios libres, moi, pour moi, c'est des moments de transmission. Enfin, c'est les moments de transmission comme ça qui me viennent en tête vraiment. Enfin, que je trouve vraiment chouette parce que c'est quand même vraiment horizontal pour le coup. C'est dans de l'autogestion et que ça marche bien. Après, ben là, avec une pote, on a monté une petite asso pour qui s'appelle SOS Radio Asso. Donc, comme son nom l'indique, on fait un peu les Ghostbusters là. Tu sais, on débarque avec nos trucs et tout. Dans des radios associatives qui ont besoin, ou pas associatives d'ailleurs, ou des radios pirates ou quoi. Mais et du coup, là, on arrive à faire des transmissions. Et l'idée, moi, ce que je trouve le plus important dans les transmissions, en fait, c'est de réussir à les documenter. C'est-à-dire documenter. Souvent, il y a des trucs qui sont déjà en place et tu viens faire une transmission et en fait, les gens prennent des notes, évidemment, et tout, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que nous, par exemple, si on a, je sais pas, on a une journée de transmission comme ça ou de, je sais pas quoi, tu vois, de formation ou de transmission, un truc dans le genre, ben, on va prendre 3 heures pour faire ça et après, on va prendre 3 heures pour qu'ensemble, on écrive, on décrive, on dessine, on, je sais pas, tu vois, on fait des schémas pour qu'il y ait un truc qui reste parce qu'en fait, il n'y a pas que... à travers les... Je sais pas, tu vois, il n'y a pas que des difficultés de transmission d'une personne à une autre, ou, tu vois, d'un genre à un autre, ou, tu vois, avec des problèmes de domination, tu vois, comme on disait, il y a aussi des trucs dans le temps qui se passent, tu vois. Genre, parfois, il y a des gens qui savent comment leur radio, elle marche, et que c'est très horizontal, et ça marche très bien, et tout ça. Et puis, pour une raison X ou Y, il y a un changement de team, et en fait, la team d'après, elle ne sait plus du tout. Du coup, faire de la documentation, c'est hyper important, tu vois, mettre des étiquettes partout. Il y a une radio qui est exemplaire là-dedans, c'est Radio Dragon, qui est à Mince, dans la Drôme. Je dis, c'est hallucinant, quoi, c'est hallucinant. Ils nous demandent, enfin, on travaille encore avec elle pour faire de la documentation et tout, mais c'est trop bien, quoi. Sur chaque bouton, t'as une étiquette, chaque truc, t'as les codes qui sont là, et puis parfois, c'est genre, regardez sur l'étagère en haut à droite pour voir comment ça marche tel truc, et puis t'arrives sur l'étagère en haut à droite et t'as tout qui est plastifié. Enfin, c'est hyper accessible, c'est trop bien. C'est trop bien. Bon, il faut savoir lire. Il y a encore ce problème-là d'accessibilité que la radio dépasse. Mais voilà, c'est quand même... c'est hyper bien. Je trouve ça super chouette. Faire de la documentation, moi, c'est mon kiff. J'adore ça. Enfin, c'est le bouquin, en fait. C'est ça aussi, quoi. Ouais.
Bah super, voilà, écoute, super. Pour
le bouquin est gratos en ligne.
Le bouquin est gratos en ligne, Radio It Yourself, et puis il reste des traces de la chaîne YouTube.
Ouais, il y a une chaîne
aussi un peu sur Internet. Et quand même, pour finir, le top 3 de tes émissions préférées. Voilà, c'était la question, on a dit qu'on allait te la poser, on te la pose, et ça sera la dernière question.
Alors, mon émission préférée, c'est... Alors, ouais, je dois les classer en top 3 ou pas?
Comme
forcément. Alors, mon émission préférée, c'est Bras Zéro, sur tous les intros. Ouais. C'est vraiment... ouais, ça on m'a demandé de le dire, désolé.
Ouais, on t'avait pas dit de le dire qu'il fallait que tu...
Ah merde. Non, en vrai, Bras Zéro, je kiffe et j'écoute et je kiffe le concoctage radio que c'est, quoi. Moi, il y a une émission que j'adore, c'est Pédale Scandale sur Radio Dio à Saint-Thé. Je kiffe trop à chaque fois que j'écoute, je trouve ça juste génial. Donc voilà, si la team de Pédale Scandale, si vous écoutez, continuez, longue vie à vous, c'est trop trop bien. Et puis une dernière, je sais pas trop la dernière. Faut vraiment que j'en donne trois.
Non, mais bah
voilà, bah j'en donnerai que
c'est
deux.
Radio
alors.
Libre.
Eh ben, merci super, beaucoup pour l'invite. C'était
la place,
trop bien.
Hein. Et ouais. Merci Clément.
Merci
pour ce livre. C'est trop bien. Cool. C'est trop fort.
Liana ?
Oui, qu'est-ce qu'il y a ?
T'as pas entendu un truc bizarre ?
Si.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est Macron qui finit d'exploser tous les derniers droits qu'on avait encore un peu. Des fois, il y a raideur, alors ça s'accumule. Puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal.
Ah.
Et qui dit explosion, dit mouvement social, d'où le bruit que t'as entendu tout à l'heure.
Ah.
Quoi ?
Tu sens pas le brûler ?
Bah ouais, c'est normal, je t'ai expliqué. Il y a un mouvement social.
Ouais.
Et l'agitation sociétale due à ce mouvement social...
La quoi ?
L'agitation sociétale.
Ah oui, oui.
...provoque une élévation thermique suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Oui, oui, d'accord.
C'est alors ce qu'on appelle l'insurrection. C'est normal.
Ah.
Tu comprends ?
Oui, oui. Mais...
Qu'est-ce que tu voulais ?
Là, je voudrais savoir. Toutes les banques sont en train de brûler, c'est bien ça ?
Mais oui, écoute. Les symboles du capitalisme morflent en premier avec les agences d'intérim et les forces de répression. Tu comprends ?
Ouais, ouais.
C'est normal, parce que de toute façon, les travailleurs et les travailleuses et les improductifs en ont gros sur la patate.
Ouais.
Alors le feu, c'est chouette et c'est efficace.
Ah ouais.
Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'une révolution.
Ah, une révolution.
C'est normal.
Ah ouais, ouais, ouais.
Oui ?
D'accord.
Bon, qu'est-ce qu'il y a encore ?
Tu te sens pas comme si on commençait à cramer, là, un peu ?
Écoute, écoute.
Oui.
Essaye de comprendre, c'est très simple.
Oui.
Tu te souviens de la révolution ?
Ouais.
La destruction du capital par les flammes.
Ouais.
Bon, ça veut dire que pas mal de structures de domination ont disparu.
Ouais.
Et que nous sommes beaucoup moins contraintes.
Ah, ouais, ouais.
Or, une vie moins contrainte permet toutes les inventions et tous les changements. C'est ce qu'on appelle la révolution sociale. C'est normal.
Ah, ouais.
C'est tout à fait normal.
C'est la révolution.
Voilà.